Interview.
2 jours.
Global Metal Warming. Après les Moundil Farik en interview, je vous propose de continuer dans la thématique une soirée à la MOBA, côté Bagnoles sur 16, avec le groupe de black metal français 7. Et cette entrevue que Saint-Vincent, auteur et chanteur entre autres du groupe, nous a accordée en fin de soirée. Saint-Vincent nous parle notamment du dernier album du groupe, La France des Maudits, du black metal et de plein de belles choses comme ça, dans son langage propre peut-être aussi à son personnage très élégant, très poétique, un tantinet sarcastique, teinté d'humour noir bien sûr, avec cette part omniprésente de mystère qui lui va si bien. Allons-y donc avec, comme de coutume, des titres extraits du dernier album en question pour rythmer cette interview, avec un morceau qui justement ouvre le dernier album, c'est-à-dire Paris des Maléfices. Ensuite, en cœur d'interview, le magnifique titre Dans le cœur, un poignard. Et pour finir, Dans la beauté et le blasphème, ce sera le morceau Et que vive le diable. Une petite correction que je me permets d'apporter sur le terme Black Need, qui est, contrairement à ce que je dis plus tard dans l'interview, un terme très en vogue par les temps qui courent et qui désigne ce mélange subtil et moderne de black metal et de death metal. Voilà, chacun apporte ainsi sa correction. Sombrons tout de suite avec Saint-Vincent et dans cet album, ce chef-d'œuvre, La France des Maudits. On est là à la MOBA, à Bagnols-sur-Cèze, avec Saint-Vincent du groupe 7.
Précisément.
Du coup, j'ai dit Bagnols-sur-Cèze au lieu de Bagnols-sur-Cèze. Ça,
excellent. Excellente façon de commencer une entrevue.
N'est-ce pas ? On a la chance de se voir après votre concert. Ce qui est assez rare, parce qu'après le concert, on peut imaginer qu'on est un petit peu fatigué ou qu'on va passer à autre chose et rentrer chez soi.
Fatigué jamais.
Jamais.
C'est quand on fait un concert, c'est toute la nuit qui est prise. Alors, on n'est pas des petits vieux malgré l'âge et qui rentreront après.
Boire un thé.
Boire une tisane, voyons.
Ce soir, vous avez fait environ, je ne sais pas, une heure et quart, une heure et demie de set.
Quand on est monde, on ne compte pas. Je n'en sais rien.
Je ne m'en suis pas rendu compte non plus. En général, c'est bon signe. Quand
c'est
ça
bon
passe
signe,
très
bien
vite.
Sûr. Quand on adore, on ne voit pas le temps passer.
Et vous avez joué beaucoup de votre dernier album ?
Bien sûr.
En partie ?
C'est ça.
La France des maudits ?
Bravo.
Ce qui était sorti à une date fétiche, 14 juillet. Quoi.
C'est ça. Je dirais symbolique, plus que fétiche, mais chacun son appréciation de la chose.
Très symbolique. Du coup, c'est toi qui pourras nous l'expliquer mieux que personne, je pense, pourquoi c'était symbolique.
Parce que ça rentrait avec le concept dans le sens du décor de l'album, la thématique, c'est justement la suite de la morsure du Christ, où à la fin, après le triomphe de Lucifer, donc la lumière de Lucifer amène liberté et donc une nouvelle ère de rébellion et de en dehors de l'ancien ordre, avec la chute de l'ordre établi, et donc à partir de là, dans une malédiction totale, c'est-à-dire hors de Dieu, un nouveau monde secret, une nouvelle France, puisqu'on a mis ça dans un cadre un petit peu intime et donc attaché à notre culture. Et à partir de là, donc la rébellion contre l'ancien ordre établi, de par la tradition française, s'incarne plutôt bien dans la Révolution française au niveau des thématiques et au niveau du décor. Alors après, c'est pas un album qui est, comme je répète, historique, pas du tout.
Oui, c'est pas sur la Révolution.
Non, pas du tout. C'est vraiment la thématique, certaines images, la guillotine, etc. Mmh. C'est un album qui est centré au niveau des textes sur une rébellion, qu'elle soit de l'adolescence, qu'elle soit de l'âge adulte, qu'elle soit la façon de se sentir hors du mainstream ou hors du, comment dirais-je, de la mouvance globale, toutes les personnes qui sont à la marge et qui se reconnaissent dans le terme de maudit en étant à la marge, quelle que soit leur essence, leurs idées, et qui crachent sur le mouvement global, l'ordre établi, et qui se sentent dans un esprit de rébellion. Et donc pour coaguler tous ces sentiments, la Révolution française est une source d'inspiration graphique et thématique, simplement.
Dans le visuel aussi, du coup, ça se rejoint.
Et c'est ça, bien sûr. Et c'est pour ça que le 14 juillet a été choisi pour la sortie de l'album. Voilà, une date symbolique par rapport à la thématique. Et donc, le visuel, surtout, quoi. On a profité de... Il y a une source graphique assez riche sur la Révolution, cette période, et qui n'a jamais été mise en valeur. Et donc nous l'avons fait. Enfin, jamais mise en valeur. Il y a eu même des albums de Heavy qui ont abordé la thématique dans le passé. Pensez à ADX, par exemple, enfin, des groupes plus anciens. Mais donc, on n'est pas les premiers à le faire, mais on l'a refait au goût du jour et avec la thématique black metal.
Et par rapport à l'album précédent, si je dis pas de bêtises, tu l'avais tout réécrit. C'était un ancien album de 7. Tout premier, tu avais tout réécrit en alexandrin.
Eh bien, tu viens de dire une bêtise, mais...
Corrige ma bêtise. Tu es là pour ça.
J'adore corriger, donc c'est très bien.
Corrige.
Alors, nous avons réenregistré le premier album, Les Blessures de l'âme, live, en concert, et donc en restant fidèle aux paroles, et donc à la musique. Mais La Morsure du Christ était une suite thématique et une suite logique de ce premier album, mais les paroles ont été réécrites et sont complètement originales.
D'accord. Mais tout en alexandrin, ça j'y tiens.
Précisément en alexandrin, tout comme le dernier album La France des Boudis.
Voilà. Parce que c'est toi qui écris.
Précisément.
Est-ce que c'était de nouveau pour cet album-là tout en alexandrin ?
Tout à fait.
Ah oui.
Tout à fait. J'ai pris plaisir à l'exercice sur l'album précédent et j'ai voulu réitérer cette contrainte.
Il y a ce côté poétique quand même dans tes écrits, qui est là et, tout le temps.
Oui, c'est une, comment dirais-je, des exigences que je m'impose dans ce groupe, et aussi un des plaisirs.
Puis ça, dans la sonorité, dans la manière de chanter, ça doit jouer aussi quand même.
Rythmiquement, forcément.
Et oui.
Et oui, mais c'est un impact directement.
Est-ce que tu penses que le public le ressent ?
Alors, de toute façon, c'est le principe de la musique, ou je pense même de la poésie. De prime abord, la plupart des gens ne vont pas analyser ou quoi que ce soit. Il faut que la chose s'exprime et que les gens... L'idée, c'est que ça soit quelque chose de subtil, presque magique, si je puis dire. C'est-à-dire que sans analyser la structure, etc., juste en prenant l'expression telle qu'elle est, telle qu'elle jaillit, de ressentir une chose, et après, dans cette subtilité, on va orienter quelque part le sentiment de... du spectateur. Après, bon, les gens qui vont commencer à analyser, ça va à un niveau supérieur d'intimité avec la création. Ouais.
Oui, après, on rentre plus dans le domaine littéraire. Est-ce qu'il y a forcément des rimes ?
Ah bah oui. Mm-hmm. Oui. Alors, on n'est pas obligé d'en faire, hein, mais j'apprécie les alexandrins avec des rimes. Mm. Je pousse à être riche. J'essaie d'éviter les rimes trop simples.
Les rimes pauvres, comme on dit.
Exactement, les rimes pauvres.
Par exemple, il y a une chanson que personnellement j'aime beaucoup, c'est « Dans mon cœur, un poignard ». Cette chanson-là, elle parle... Alors, elle parle de quoi, en fait ? Est-ce que c'est d'un sentiment amoureux blessé ou d'un être perdu ? Du sentiment de perte de quelqu'un ?
J'ai la prétention d'avoir voulu écrire des paroles... qui soit plus universel qu'un cas particulier, mais effectivement, cette considération, cette interprétation entre dans le champ des possibles que j'ai voulu exprimer, tout à fait.
D'accord.
Voire, bien sûr, c'est une de mes aspirations principales. Yeah.
Chaque chanson est à prendre à part ou c'est un tout?
Alors vraiment, quand je travaille sur un album, j'existe de moi-même qu'il y ait une globalité et que tout soit cohérent. Je ne peux pas faire un patchwork dépareillé de chansons, c'est pas possible. Donc ça s'intègre dans la thématique globale.
C'est vrai que ça se ressent de manière générale dans le set, et ce côté intense
dans
votre
bien.
Musique.
C'est un peu le principe du metal et du black metal.
Et du black metal, oui. Votre black metal à vous, tu le définirais comme classique, à l'ancienne?
C'est compliqué parce que black metal à l'ancienne, il est déjà relativement varié. C'est un black metal à l'ancienne par définition, dans le sens où c'est la continuité du black metal que le groupe faisait dans la fin des années 90, début des années 2000. Donc forcément, on est en 2025, donc c'était il y a 25 ans. Donc c'est forcément à l'ancienne. Après, déjà, dans les années 90, pour la deuxième vague du black metal, il y avait déjà plusieurs... Dark Throne ne sonnait pas comme Empereur. Donc il y avait déjà plusieurs subtilités. Hein.
Parce que parfois, j'entends le terme de Black Need. Pour toi, c'est... vous correspondriez
Plaît-il
à ça? Black Need. Alors apparemment, ce serait un mélange de black metal et de métal moderne. Non, tu ne connais pas.
Eh bien, ma foi, les années passent. Et je te remercie de m'initier à de nouvelles subtilités qui m'échappaient. Eh bien, ma foi.
Parce que parfois, on m'a dit, non, ce qu'on fait, ce n'est pas du black metal, c'est plus récent, parce que le black metal, avant, c'était plus puriste. Tu sais,
oui, c'était très puriste.
À la norvégienne.
Je me rappelle des débuts de set, je n'étais pas dedans, mais j'étais black metalleux au début, dans les années 90. Et je me rappelle que... Set était à la fois vénéré par rapport à le côté pionnier du groupe, à la fois détesté parce que c'était un des premiers groupes de black metal français qui a été signé sur un label conséquent, c'est Snuffmist. Donc il sortait d'une certaine façon de l'underground. Ce qui est un peu exagéré rétrospectivement, mais le côté puriste, on baignait dedans, c'est sûr. C'était une question qui était en permanence sur toutes les lèvres.
Après vous, au niveau du visuel et du spectacle, on peut dire ça comme ça,
oui,
pour le show,
oui,
vous êtes,
tu veux.
Vous avez votre propre atmosphère, on est complètement dedans, ou pas. Hein. Il y a un visuel qui peut toucher le public.
Mm-hmm.
Vous avez tous des tenues de scène, il y a quelque chose de...
Oui, pas de souci.
Communicatif, ça c'est très travaillé, j'imagine.
Ah bah évidemment, oui.
Bah oui. Son personnage, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il a un nom, le personnage sur scène?
Ben c'est moi, c'est mon pseudo.
C'est Saint-Vincent.
C'est ça.
Ouais. Et tu l'as trouvé, toi, au fond de toi, c'est toi qui l'as créé, ce personnage, ou c'était là avant?
Ah non, c'est moi. Ah non, pas du tout. J'ai créé, et puis surtout, j'ai recréé l'imagerie du groupe à partir du moment où on est communié, si je puis dire, avec les blessures de l'âme. Donc, j'ai créé le personnage, j'ai créé mon personnage dans scène de Saint-Vincent, et j'ai refait au début les designs pour se remettre. J'ai réamené les bougies, toute cette ambiance-là, pour recommunier avec le black metal tel que... une partie du black metal, parce que tout n'était pas comme ça, mais en tout cas, une de ses composantes telle qu'il était dans les années 90.
Oui, un petit peu l'aura.
Voilà, dans celui qui avait... Exactement. Alors après, il y avait plusieurs types de black metal, il y a des choses plus épurées, plus simples, mais dans sa partie la plus chargée telle qu'on l'a fait. Quoi. Donc il y a un côté... un côté vintage, comme on dit maintenant. Voilà.
Ouais, vintage. Il y a un côté romantique et sombre, et il y a ce côté qui est quand même bien présent.
Oui,
romantique,
d'accord.
Je sais pas si c'est le mot.
Pourquoi pas,
pourquoi pas.
C'est un petit peu poussif, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Si on veut.
Oui, c'est pas le premier mot qui arriverait.
Pourquoi pas. Si c'est avec parcimonie, ça me va.
À l'ancienne.
Voilà, ça fait romantique, ça fait trop groupe gothique, on n'est pas là.
Ouais,
dans
non, c'est pas
là,
ça du tout.
Mais avec un petit peu, avec parcimonie, pourquoi pas.
Oui. Par exemple, vous avez, je sais pas, elle vous suit sur toute la tournée, la demoiselle qui arrive.
Mélénia. Non, c'est quelques performances. Comme ça.
C'est pas tout le temps.
C'est une performeuse que j'ai rencontrée. Alors c'était une exposition Métastasis à Grenoble sur l'Aïbar. J'ai rencontré à cette exposition et je lui ai proposé j'avais déjà vu ses réseaux sociaux et je savais qu'il faisait des performances et je lui ai proposé de faire quelque chose parce qu'il y a certains groupes dans les années 90 qui ont essayé et même des groupes qui après ont changé complètement d'optique, mais ont essayé ce spectacle outrancier, et je voulais faire ça, un spectacle outrancier tel que certains groupes faisaient dans les années 90. Et je lui ai proposé, donc elle a été partante, et on a fait plusieurs concerts comme ça, mais pas tous. Ça demande de la logistique, etc., on le fait pas toujours.
Oui, ben là par exemple, c'est quand même une salle qui est plutôt pas grande.
Non, mais
salle,
ça s'est très bien passé.
Donc elle était bien présente.
Voilà.
Et c'est appréciable.
Bah, parfait.
Vous avez quasiment toujours votre performance qui est là au rendez-vous, où que vous soyez.
Non, pas toujours, mais alors,
ça dépend des disponibilités. On fait,
voilà, c'est ça. Et puis les contraintes techniques de la salle.
Ouais.
Mais oui.
Mm-hmm. Ouais, même sur des petites scènes.
Ouais. Exactement.
Par exemple, toi, ou vous, en général, dans cette, pas de préférence pour les grandes ou les petites scènes?
On préfère les grandes scènes.
Oui.
C'est beaucoup plus agréable. On
ouais.
a la
c'est
place.
Pas la même...
On fait tout, parce que c'est toujours bien les petites scènes, parce qu'il y a une proximité avec le public, enfin c'est ce que je dis,
oui.
c'est des lieux communs.
C'est
il y a une proximité avec le public qui est différente, il y a quelque chose de plus intime.
Mmh.
Mais bon, les grandes scènes, au niveau du confort de travail, si je puis dire. De,
voilà, et pour c'est, l'espace aussi.
Ah oui, tout simplement.
Ouais.
Donc voilà, ouais, il y a les deux.
Mmh. Le mieux, c'est de voir les deux, en fait, quand on est dans le public, par exemple.
Ah bah, c'est au public de me dire.
Pour vous avoir vu à la salle du Temple, au Hellfest, on a des bonnes extrêmes quand même.
Exactement.
Voilà. C'est à voir. Et après, vous avez quelques dates pour de prix.
Alors, on a fait Bagnols-sur-Cèze et après, on a Bucarest, Oslo et Istanbul.
Oslo.
Ouais.
C'est quand?
Avril, l'Inferno Fest.
Ok.
Avec plein de groupes norvégiens.
C'est un festival.
Oui, c'est un très grand festival de black metal.
De black metal. Donc, si on veut vous voir, il faut aller à Oslo bientôt.
Précisément.
Voilà. Et après, on imagine en France, dans l'été.
Après, il y a plusieurs dates, mais...
Ouais, on pourra chercher, ça se trouve facilement.
Exactement.
Ça. Ok. Bon, eh bien, merci.
Merci à toi.
Voilà, il n'y a plus qu'à écouter La France des Maudits, qui est sortie, c'était l'été dernier.
Le 14 juillet, donc l'été dernier, tout
c'est
à fait.
Ça. Donc, on peut encore s'en régaler largement.
Largement, pour c'est des siècles et des siècles. Amen.
c'est la belle parole de fin. Merci.
Merci à toi.
À bientôt. Yeah.
Global Metal Warming. Global Metal Warming. Global Metal Warming.